Renault.
L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente » Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source l'Automobile Magazine 2023.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Église d'aujourd'hui.
Matteo Ghisalberti.
Bonsoir, bienvenue dans l'Église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui est diffusée tous les samedis soirs après l'afterfoot sur RMC, une émission qui est proposée par le diocèse de Monaco. Nous partons tout de suite pour le Caire où je retrouve le frère Adrien Candiard, qui est un frère dominicain qui vit justement dans le couvent du Caire et qui est l'auteur de plusieurs livres, par exemple Veilleur où on est la nuit ou encore Quand tu étais sous le figuier. Et à Philémon, qui a été récompensé avec le prix de la liberté intérieure, et puis de plusieurs autres ouvrages, mais aussi d'un dernier livre qui est sorti il y a quelques semaines, dont le titre est « Quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise ». Bonsoir, frère Adrien Candiard.
Bonsoir.
Alors, d'abord, vous dites que dans votre livre qu'il y a eu une fin des temps dans toute époque en fait, parce que maintenant on parle souvent d'apocalypse, on dit qu'il y a un apocalypse environnemental qui nous guette malheureusement, il y a un apocalypse alimentaire peut-être, mais finalement vous dites il y en a toujours eu.
Alors, des peurs de fin des temps, oui, c'est quelque chose qu'on retrouve. À beaucoup d'époques, dans beaucoup de sociétés différentes, dans un cadre chrétien notamment, mais pas seulement. Mmh. La particularité de notre époque, peut-être, c'est que les menaces qui pèsent sur nous, et vous en avez cité effectivement deux, vous avez cité la menace environnementale, pardon, qui est effectivement inquiétante. On peut y ajouter, en ces temps de guerre en Ukraine, la menace nucléaire. Alors il y a eu des moments où on a pas mal agité cette affaire. Aujourd'hui, ça semble un peu plus s'éloigner, mais enfin, on voit bien que cette menace existe. Mmh. Et ce sont deux cas qui peuvent conduire à notre destruction complète. La particularité, je pense, de notre époque par rapport aux autres époques, c'est que ces menaces-là, elles sont créées par l'homme. Mmh. C'est-à-dire que on ne vit pas simplement dans l'angoisse de catastrophes naturelles qui pourraient faire disparaître notre monde, mais bien de catastrophes dont nous sommes collectivement responsables.
Sauf que, comme vous dites toujours dans le livre, alors le mal est présent dans la vie des hommes depuis la création, depuis Adam et Ève. Mais, il a empiré à cause de notre avidité.
Alors, la particularité de notre époque, c'est que nous comprenons que le mal n'a pas que des effets mauvais individuels, mais qu'il peut avoir des effets mauvais collectifs qui nous concernent absolument tous. Mmh. Et que la logique du mal n'est pas simplement que Dieu interdit des choses pour nous casser les pieds, mais que le mal, en fait, produit du mal, fait du mal, il est destructeur, et on en voit les conséquences, puisque pour reprendre ces deux menaces vitales qu'on évoquait à l'instant, la possibilité de la destruction nucléaire n'est que l'aboutissement d'une logique de concurrence et de guerre qui travaille l'humanité depuis très longtemps, et de même que le danger sur notre environnement vient, vous l'évoquiez, de notre avidité, notre besoin de consommer toujours davantage.
Pour revenir par contre au récit de l'Apocalypse sur lequel on a écrit des tomes tout au long pendant ces derniers 2000 ans, finalement, beaucoup de personnes se disent Jésus nous a donné des clés, mais c'était comme une prévision qui ne s'est pas réalisée. Mais peut-être il s'agit des clés de lecture en réalité.
Alors tout à fait, vous avez raison. La Bible, L'Apocalypse, c'est le nom d'un livre biblique.
Oui.
Le dernier des livres du Nouveau Testament.
Saint Jean.
Et c'est aussi comme ça qu'on désigne tout un genre littéraire qu'on trouve dans d'autres livres bibliques. Dès les livres les plus tardifs de l'Ancien Testament, notamment le livre de Daniel, mais aussi des passages de l'Évangile, notamment un chapitre de l'Évangile de Marc. Et le livre que vous avez cité, quelques mots avant l'Apocalypse, est un commentaire de ce discours de Jésus dans l'Évangile de Marc sur la fin des temps. Et vous avez tout à fait raison, on peut le lire comme une espèce de calendrier de la fin des temps.
Et une prophétie.
Il semblerait que, voilà, des prophéties de comment tout ça va se passer.
Ouais.
Et en ce cas, il semblerait que ça ne se soit pas passé, en tout cas aussi vite qu'on pouvait l'attendre à l'époque de Jésus.
Ouais.
Ou bien, et je pense que c'est beaucoup plus riche comme lecture, le lire non pas comme un calendrier de ce qui doit se passer,
ouais,
mais comme signification, les clés de lecture de l'histoire humaine.
Oui.
Les clés de lecture de notre histoire. Ce n'est pas la description de ce qu'on peut lire dans le journal en même temps. Ça ne serait pas très intéressant, d'une part. Et d'autre part, je crois qu'il s'agit vraiment de nous dire ce qui est à l'œuvre dans l'histoire humaine, ce qui éclaire pas seulement notre époque, qui a ses particularités,
oui,
mais bien ce qui éclaire tout moment de l'histoire humaine, qui est toujours marqué par cette existence du mal et peut-être même cette croissance du mal.
L'Apocalypse, rien que le terme fait tout de suite peur. On sait aussi que d'ailleurs, dans certaines époques de l'histoire, par exemple, juste avant l'année 1000, enfin, on craignait la fin du monde, justement, et il y a eu toute une série de phénomènes aussi sociaux qui étaient, comment dire, sans justification. Mais il y a aussi, vous en parlez dans votre livre, quatre stratégies, on peut dire, pour rendre l'Apocalypse, entre guillemets, inoffensif. De quoi s'agit-il ?
Alors, de fait, le terme fait peur, même si en réalité, Apocalypse, c'est un mot grec qui veut dire révélation.
Oui.
Ça ne veut pas dire fin des temps, ça ne veut pas dire destruction, comme on l'emploie en général,
oui,
mais bien révélation. Et donc, les textes apocalyptiques, dont ce discours de Jésus, sont là non pas pour nous terrifier, mais bien pour nous donner, pour nous révéler,
oui,
le sens de l'histoire. Mais malgré tout, ces textes-là, on a cherché, enfin, ces textes nous mettent mal à l'aise,
mmh,
et on cherche en général à s'en sortir de différentes manières, souvent ou bien en les historicisant, en disant, bon, bah, ça renvoie à la communauté, la première communauté chrétienne,
oui,
sa manière de penser, qui se positionnait, ou bien en les spiritualisant.
Mmh.
C'est-à-dire en disant, au fond, ce que ça décrit, ce n'est pas l'histoire humaine, c'est l'histoire de chacun,
oui,
qui va s'achever par la mort, qui est marquée par le péché. Mais je crois que ces stratégies ont leurs limites, d'abord parce qu'elles ne respectent pas vraiment la parole de Dieu.
Mmh.
En effet, la parole de Dieu ne parle pas seulement à des âmes individuelles, mais elle parle bien à l'histoire de l'homme, à l'histoire des hommes, et c'est... le Dieu des chrétiens est un Dieu qui intervient dans l'histoire et pas simplement qui parle au fond de mon cœur, il parle aussi au fond de mon cœur, mais il intervient aussi dans l'histoire humaine et donc ça c'est assez essentiel à conserver. Et puis si on fait l'impasse sur ces textes-là en les cherchant,
oui,
à les écarter de notre lecture, je crains que ça veuille dire que dans la situation de menace réelle que nous vivons aujourd'hui, ça voudrait dire que la foi n'a rien à dire. Et ce serait bien dommage.
Oui.
Que précisément, la parole de Dieu, elle a des pages pour les temps de crise, comme les temps de crise que nous traversons.
Mais justement,
précisément ces textes apocalyptiques.
On a peut-être aussi essayé de laïciser cette pensée, cette... point de vue sur la fin des temps, donc finalement réaliser un bonheur tout de suite, maintenant, ici sur Terre.
Alors, c'est cette question du
pour peur,
du
mal, peut-être.
Oui, non, mais cette question du mal, on a cherché à la prendre de différentes manières. D'une part, en sortant la question de Dieu.
Mm.
Et sur certains points, tant mieux. C'est-à-dire que pendant très longtemps, Dieu a été le nom qu'on a donné à notre ignorance.
Oui, un espèce de père fouettard aussi.
Voilà, mais d'un certain nombre de phénomènes naturels, on a eu encore tout récemment des tremblements de terre, oui. Pendant des siècles, on n'avait pas d'autres cadres pour penser, pour expliquer, que de dire bah, Dieu doit être en colère. Heureusement qu'on a fait un travail scientifique qui nous permet de comprendre d'où vient le tremblement de terre et de ne plus appeler Dieu tous les phénomènes naturels qu'on ne savait pas expliquer. Bon, maintenant, on sait expliquer tout un tas de choses et tant mieux, ça purifie notre image de Dieu. De ce point de vue, la modernité est une bonne chose. Elle nous permet de revenir au Dieu de l'Évangile, au Dieu de Jésus-Christ, qui n'est jamais un Dieu qui punit les péchés des hommes à travers des tremblements de terre. Jésus ne parle jamais de ça.
Mais en réalité, justement, il y a aussi une question d'amour de Dieu vis-à-vis des hommes et aussi une façon... Enfin, est-ce que on peut dire qu'avec l'Apocalypse, Dieu finalement laisse les hommes se débrouiller toutes seules ou c'est l'inverse?
Alors, je disais, dans notre situation actuelle, la particularité frappante, c'est que nous sommes responsables de nos catastrophes. À partir d'éléments, notre rivalité, notre avidité, tout ça qu'on appelle traditionnellement, d'un mot qui fait souvent peur, le péché. Qui fait peur, qui paraît tout à fait démodé. Mais c'est quand même le bon mot pour parler du mal dont l'homme est responsable. Quand on dit ça, dire que les catastrophes qui nous menacent viennent de notre péché, ça peut faire très peur à nos auditeurs qui vont se dire qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ? On est en train de nous dire que c'est de notre faute et que Dieu nous punit à cause de nos transgressions.
Oui.
Mais ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire. C'est-à-dire que Dieu ne punit pas en envoyant des catastrophes le mal fait par les hommes. Les catastrophes dont on parle, elles sont la conséquence de l'action des hommes. Quand on parle de guerre nucléaire ou de réchauffement climatique, oui, c'est pas que Dieu se dit « Tiens, ils n'ont pas été sages. » Ça, c'est une vision complètement puérile. « Ils n'ont pas été sages, je vais les punir. » Non, c'est pas ça. C'est que notre péché est en lui-même destructeur. Si on s'interdit d'en faire une lecture aussi théologique, c'est-à-dire mettant en jeu le fait que le péché de l'homme est quelque chose de destructeur, eh bien, on ne comprend plus rien à ce que nous vivons aujourd'hui.
Et on peut dire aussi que je reprends un petit peu une question de tout à l'heure. Est-ce qu'on a une façon pour rendre inoffensif l'Apocalypse dans le sens c'est pas que on doit être gentil et voilà comme par magie tout va passer, mais quand même il y a aussi une approche personnelle et collective qui peuvent être inspirées par les Écritures.
C'est-à-dire que l'Écriture nous dit,
et l'Évangile révèle, en particulier,
nous révèle l'amour de Dieu d'abord, et cet amour de Dieu qui est donné aux hommes. Est à la fois une très bonne nouvelle, évidemment, mais une responsabilité. C'est-à-dire que ce que l'homme est tenu de faire, c'est de se laisser aimer, d'accepter cet amour de Dieu qui lui est proposé. Il peut l'accepter, il peut le refuser. Et refuser d'être aimé, c'est précisément ce qu'on appelle le péché. Tous les péchés que nous connaissons, notamment ceux que j'ai cités, sont des conséquences de ce refus d'accepter l'amour de Dieu. Et en ce sens, l'amour de Dieu est donc une très bonne nouvelle, mais cette très bonne nouvelle a quelque chose d'inquiétant. Plus l'homme la refuse, et plus il court à sa perte. Et ce que nous vivons aujourd'hui est une forme assez inquiétante, où nous voyons progresser à la fois l'amour de Dieu reçu et partagé, et en même temps les catastrophes qu'entraîne le péché de l'homme, le refus de l'amour.
J'ai une dernière question un peu méchante, mais finalement dans l'Évangile on parle aussi très clairement de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Finalement, on sait qu'on y arrivera.
Absolument, nous avons une espérance qui est donnée par l'amour de Dieu est vainqueur du mal. On le sait, on sait que Dieu est plus fort que le mal. Il n'est pas nécessaire, il ne souhaite pas être plus fort que notre volonté, à vous ou à moi, mais fondamentalement, Dieu va être vainqueur. Ce qui est exprimé, vous avez tout à fait raison, par cette image d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle, qui ne doit pas nous induire en erreur. On pourrait se dire, du coup, nous n'avons pas tellement de responsabilités à avoir avec, sous ce ciel-là et sur cette terre-là, puisque, après tout, tout ça va être remplacé par le royaume de Dieu. Mais c'est un contresens.
Mmh.
C'est un contresens parce que l'amour de le royaume de Dieu, il se construit en ce monde.
Mmh.
En ce monde où le Christ est venu partager la condition humaine, c'est pas parce qu'ils s'en moquaient en disant que tout ça n'est pas important, la condition humaine, tout ça va passer. Au contraire, il l'a prise au sérieux. Recevoir l'amour de Dieu, ça se vit de manière très concrète. Pas dans une espèce de théorie sur le fait qu'un jour on y vivra, mais c'est bien en cette vie, avec ses limites, avec sa dimension la plus charnelle et la plus concrète, qu'on peut recevoir cet amour et le partager. Et donc, se moquer de notre monde actuel en se disant « c'est pas grave puisque tout ça va passer », ce serait comme pousser les gens au suicide en leur disant « vous savez, il y a la vie éternelle ».
Oui, tu vois.
C'est évidemment le contraire. Au contraire, cette vie a de la valeur parce que c'est en elle que se construit le royaume de Dieu, que se construit la vie éternelle.
Je vous remercie, frère Adrien Candiar. Je rappelle que vous êtes…
Merci à vous.
L'auteur de ce dernier livre, Quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise. Et vous êtes aussi l'auteur de plusieurs autres livres. Celui-ci a été publié par les éditions du CERF. Je donne rendez-vous à nos auditeurs samedi prochain, toujours après l'After Foot. Et pour l'instant, je vous laisse avec la programmation de la nuit de RMC. Bonne nuit.
Bonne nuit.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission présentée par Matteo Ghisalberti, à retrouver sur l'application RMC et sur rmc.fr.